Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center à New York s'effondraient lors des attentats menés par Al-Qaïda sur le sol américain. La même année, Habib Dechraoui tentait de créer à Montpellier, en France, un festival donnant à voir et à entendre les différentes expressions artistiques du monde arabe. Mauvais timing, s'il en est, pour ce projet suspendu, mais pas enterré, puisqu'il naît finalement en 2006. Arabesque en est donc à sa 16e édition et son directeur fondateur nous en donne l'esprit et les principales affiches. En seconde partie d'émission, nous lisons la presse régionale Israël et Monde Arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Habib Dechraoui.
Bonjour Éric Bataillon.
Fondateur et directeur du festival Arabesque à Montpellier, 16e édition cette année. Une première interrogation liée à la situation sanitaire particulière, Habib Dechraoui. Ce festival se tient-il dans de bonnes conditions cette année ?
Alors, il va se tenir dans des conditions un peu particulières, mais en même temps on revient de tellement loin qu'on peut juste se satisfaire de faire une édition presque normale. Pas sanitaire exigé, donc on ne peut pas dire qu'il va se tenir dans de bonnes et très bonnes conditions, mais dans des conditions relativement acceptables en tout cas, voilà.
Rappelez-nous l'ambition de ce festival dont vous avez eu l'idée, si je ne m'abuse, ouais. Un peu avant le triste mois de septembre 2001.
Complètement, c'est une idée qui est intervenue dans mon ancienne vie où j'étais artiste et je faisais une grande tournée dans le Proche et au Moyen-Orient, c'était en 2000. Et l'idée était de créer un événement, moi j'avais été frappé par la diversité culturelle qu'il y avait dans ces pays arabes. Donc, je connaissais par ailleurs, mais en tout cas, quand on les côtoie de plus près, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose finalement. Donc l'idée était de créer un festival entièrement dédié aux arts du monde arabe en 2000. Et est arrivé le 11 septembre 2001, pendant que je démarchais pour essayer de rassembler des fonds pour créer ce festival. Et là, ça a été juste incroyablement difficile parce que j'avais deux discours. Le premier, c'est de dire il faut faire profil bas parce qu'avec le 11 septembre, tu comprends, le monde arabe n'avait plus la cote. Et ceux qui comprenaient parce que il fallait redonner une image positive du monde arabe. Alors, dans les deux cas, je n'étais pas d'accord. Alors, j'ai préféré attendre que les esprits s'apaisent un petit peu avant de remonter un petit peu au créneau pour créer cet événement. Voilà.
Oui, un événement qui sera finalement créé en 2006. Habib Dechraoui, est-ce que vous donnez une visibilité aux différentes expressions artistiques du monde arabe ?
Total. Alors d'abord, il faut le souligner, de tous les pays arabes, absolument tous les pays arabes, et pas en même temps, hein, bien entendu, mais selon les éditions en tout cas. Et oui, alors exposition, donc photographie, table ronde, littérature, musique naturellement, théâtre, le cirque, beaucoup de formes artistiques différentes et qui font la joie et le bonheur des spectateurs en tout cas.
Est-ce que ce festival s'appuie sur des valeurs sûres ou bien donnez-vous leur chance à de nouveaux artistes ?
Alors, les deux, mon colonel. Non, les deux parce que depuis le départ, en tout cas moi j'avais fait le pari et c'est un vrai parti pris de favoriser en tout cas la nouvelle scène du monde arabe qui est extrêmement riche. Et je ne l'ai jamais regretté parce qu'on a accueilli des groupes qui étaient vraiment la nouvelle scène arabe et qui sont devenus de très grands artistes confirmés par la suite, comme Indizara, Bachar Mahalife ou bien d'autres en tout cas. C'était déjà de grands artistes, mais moins exposés. Et oui, la nouvelle scène a toujours une part très importante dans la programmation. Et ce qu'on appelle la scène confirmée, ou les têtes d'affiche aussi, parce qu'ils font un vrai équilibre pour pouvoir accueillir un maximum de personnes dans de bonnes conditions. Et c'est tout l'alchimie de ce festival-là, c'est de mélanger un petit peu les genres. Et ça nous réussit pas trop mal.
Alors justement, quels sont les temps forts cette année ?
Cette année plus particulière est une année particulière parce que l'année dernière on a pu faire l'édition contre toute attente, mais on l'a fait dans des conditions très très particulières parce qu'on avait des jauges limitées. Et alors il y a eu beaucoup de choses qui avaient été beaucoup de groupes qu'on devait accueillir, qu'on n'avait pas pu accueillir l'année dernière, qu'on accueille cette année. Donc je veux commencer par la compagnie Hervé Koubi et la nouvelle création d'Hervé Koubi avec Natacha Atlas, Odyssée. Donc avec ces fabuleux danseurs algériens. Ça, c'est une très grosse et belle création. Donc ça, on accueille cette année. On a la Orange Blossom avec la création de François Delarosière, le génialissime inventeur des machines de Nantes qu'on va accueillir. Ça, c'est une très grosse production aussi qu'on devait accueillir l'année dernière et qu'on accueille cette année. Le cirque acrobatique de Tanger avec la dernière création FIC, Réveille-toi, donc en arabe, et de Maroussia Diaz-Verbeck. Ça aussi, c'est assez fabuleux. Le retour de Souad Massi avec une forme plus acoustique. Bon, y a beaucoup de choses. Un rendez-vous assez immanquable, c'est l'ouverture à l'opéra. On va rendre un hommage vibrant à notre regretté et adoré Idir avec la très grande soprano Amel Brahim Djelloul. Ça, c'est le concert d'ouverture à l'opéra le 7 et le 8 septembre à Montpellier. Il y a tellement d'autres choses aussi, donc voilà, je peux pas tout dire. Mais
alors justement, Habib de Chraoui, deux focus détaillés, si vous le voulez bien, sur deux journées ou week-ends. Quel est le programme du dimanche 12, par exemple?
Dimanche 12, il y a la nouvelle création de Bab Salam qui invite Sylvain Julien et la création, c'est Derviche. Donc, c'est assez remarquable. Ça, c'est à théâtre Jean-Claude Carrière. Mais l'après-midi, on aura aussi, parce que la place du conte pour les enfants est très présente, et là, on aura aussi les contes de Leïla Darwish, voilà, l'après-midi aussi à 15h30 au chapiteau.
Un autre Darwish que l'on retrouvera également le week-end prochain, qui est d'ailleurs un week-end très éclectique, avec un conteur, donc, mais aussi de la musique traditionnelle, du rock, de l'acrobatie aussi.
Oui, le week-end d'après, on a parlé du cirque acrobatique de Tanger, Redouane Bougueraba, le one-man show de Redouane Bougueraba, le concert de Souad Massi, le soul band d'un groupe qu'on fait venir de Gaza, s'il vous plaît, qui fera la première partie de Souad Massi, pour notre plus grand bonheur. On a dû aussi changer un peu la programmation parce que Asma Mzaoui, que nous devions accueillir le samedi 18, a été remplacée suite à des problèmes administratifs. Et elle venait du Maroc et avec la crise sanitaire, ça a été un peu plus difficile que prévu. Donc elle a été remplacée par le génialissime Fouad Didi avec l'orchestre arabo-andalou tarab. Le rock le vendredi 17 avec Temnik Electric et Kela Souf aussi. Ça aussi, c'est quand même... ça va être assez assez mouvementé. Et je vous en ai parlé, le groupe acrobatique de Tanger, sa nouvelle création dans la grande scène de l'Amphi. Donc ça va être un week-end bien, bien, bien rempli.
Oui, Temnik Electric, nous avions reçu il y a quelques mois dans Orient Hebdo. Alors le festival Arabesque est une création de votre association Unisson, basé dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Unisson a fêté l'an dernier, en 2020, ses 20 ans. Quel bilan pouvez-vous tirer de ces 20 et désormais 21 années d'action sociale?
Un bilan globalement positif parce qu'on a réussi à mettre un certain nombre d'actions en place autour de l'éducation artistique et culturelle, la professionnalisation des musiciens, un vrai travail de cohésion sociale aussi. Mais dire que d'abord, nous, personne ne nous a obligés à nous installer dans le quartier. Moi, je suis issu de ce quartier de la Paillade. Donc, c'est un choix délibéré, volontaire et assumé qu'on a créé beaucoup de choses. On a créé d'ailleurs, même l'année dernière, un tiers-lieu culturel qui s'appelle La République. Et on a créé la première galerie de l'histoire de ce quartier avec une fréquentation record. C'est pas parce qu'on est dans un quartier populaire qu'on doit brader la culture et l'excellence, en tout cas, dans les actions qu'on peut mettre en place. Et ça, pour nous, que ce soit l'excellence artistique ou l'excellence en termes d'accompagnement, n'a jamais été négociable chez nous. Donc, pas facile, mais en même temps une équipe soudée, une équipe très volontaire pour agir au quotidien dans ce quartier que j'aime tant et pour lequel j'ai vraiment encore envie de continuer d'agir avec l'ensemble de mon équipe. Donc voilà, on est encore là, on espère qu'on sera là encore longtemps et on fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses et pour notre plus grand bonheur, le public est présent, le public en demande et c'est un quartier qui est quand même... assez difficile, mais ce n'est pas que ça. C'est un quartier où il y a des choses extrêmement positives et beaucoup de gens qui ont aussi envie de s'en sortir. C'est bien de montrer aussi cette face-là des choses. Voilà.
Habib de Chraoui, ce morceau de musique vous dit-il quelque chose?
Le silence domine. L'influence du noir dirige mes sens. J'aime cette ambiance, l'ambiance de la nuit où tous les chats sont gris. Je cherche, je fouille, je pose des tas de questions, savoir qui je suis.
Bon, qui est-ce qui chante?
Oh oui,
qui est-ce
ben
qui joue?
Oui, ben là c'est moi. Merci fou. Vous m'avez replongé. C'est un morceau qui a un peu plus de 20 ans. C'est un album qu'on avait sorti chez BMG en 89. Ouais. Wow, c'est super, merci. Alors, je vais replonger. Voilà, mais c'est oui, ça fait partie intégrante de mon parcours et de ma vie. que j'assume parfaitement. Voilà.
Et justement, est-ce que Unisson, cela a été une suite logique pour vous après cette carrière de chanteur de musicien?
Oui, parce qu'en fait, j'ai volontairement arrêté ma modeste carrière d'artiste, mais en tout cas, ce cas qui était très honorable, hein, parce que je fais des concerts dans le monde entier. Mais ça a été un choix et ça s'est fait parallèlement à la création d'Unisson. Moi, j'ai fait de la musique par passion, par envie et par engagement. Et aujourd'hui, mon engagement, mon envie et ma passion, ça reste le travail que je peux mener à travers l'association que j'ai créée, Unisson, et toutes les actions que je peux mener. Voilà, je ne me regarde pas dans la glace en disant « je veux devenir grand, ça ne m'intéresse pas ». Ce que je veux, c'est vraiment agir et faire changer les choses. J'ai pensé pendant longtemps, et je le crois encore, tout ce que j'ai pu faire dans la musique, ça a permis. Parce qu'on est allé faire des concerts dans le monde, dans des endroits où personne ne voulait aller. Et aujourd'hui, ben, mon engagement, il est à travers ce que je mène à l'émission. Donc voilà, ça me va très bien et j'aime ma vie et j'aime ce qu'elle a été. En tout cas, ça me va très bien.
Merci Habib Dechraoui.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Directeur du festival Arabesque à Montpellier, dont ce mois de septembre marque la 16e édition.
L'intégration envenime l'existence, je m'obstine à croire qu'elle pollue l'esprit. D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Quelqu'un d'anonyme ? Tu portes un pseudonyme, l'hymne, son âne joue en notre nom. Pour se faire une raison, comme ceux qui pourrissent en prison. Mon frère Lila, il va y aller sur son chemin. Même mise, une brise que je croise que de temps en temps, comme les temps ont changé. Songez à ces jeunes qui ont vu leur vie basculer, tout se bouscule dans ma tête. Conquête, défaite, j'accumule et j'accepte avec de la rage en une phrase. Ma vie est un labyrinthe. J'accumule et j'accepte avec de la rage. Dans le noir, je pense. J'accumule et j'accepte avec de la rage. Dans le noir, je pense. Au mystère de la vie. Quelle est ma voix? Pourquoi suis-je ici? Je pense, je réfléchis trop de gens différents. On méditait sur la question. Et pourquoi maintenant c'est moi, c'est mon tour? Mon parcours est écrit, donc je suis le discours. À la lettre, ce qui a été dit, décidé par mon maître. Mon stylo sert la vérité. La vérité, ce sont les familles qu'on déchire. Leïla expulsée pour avoir porté le voile. Dévoile tes véritables intentions. T'es le sang sur les valeurs morales. Déception pour Kati. Oui, d'où va son ami? Privé d'anciennement, au nom de qui? Je pense au fameux tunnel. Au sommeil éternel qui peut prédire son avenir. Nous allons tous mourir. Je vais finir par me démolir. Qu'ai-je fait de ma vie? Ma vie est-elle en fil barbelé? La réalité, je l'ai devant les yeux. Je me sens vieux. Je crains le pire tard pour me repentir. Pire, les remords dévorent déjà. Je me vois au seuil de la mort. Plus qu'un effort. Sors de ma chair, libère les larmes. Suis la lumière, évite les flammes. Je te souhaite de reposer en paix et de ne plus penser.
Nous lisons maintenant la presse de la semaine avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vos journaux cette semaine ont largement commenté la fuite par un tunnel de 6 prisonniers palestiniens d'une prison de haute sécurité israélienne. Michel Paul, cette évasion fait, bien sûr, les grands titres de la presse de ces derniers jours en Israël.
Une affaire qui a d'un côté tourné à la farce avec nombre de plaisanteries et de caricatures, tant le fiasco est énorme. La prison, imaginez-vous, était surnommée le coffre-fort. C'était écrit d'avance, estiment plusieurs commentateurs. La prochaine évasion est déjà programmée, affirme de son côté un éditorialiste. Il va falloir maintenant payer le prix de cette colonie de vacances, écrit un chroniqueur. Les geôliers ont fermé les yeux pour gagner un peu de tranquillité dans les prisons, souligne plusieurs articles, et le résultat, c'est une proposition de loi, être beaucoup plus strict désormais avec les détenus de sécurité. Mais en attendant, tous les médias le confirment, c'est l'alerte générale au sein des forces de sécurité israéliennes en cette période de fête, car Eric, tout le monde est persuadé que quel que soit l'aboutissement de cette affaire, elle va provoquer une escalade sécuritaire dans la région. Alors on s'interroge sur le prix de ce fiasco. Et aussi, très intéressant, un article de Haaretz qui affirme que cette affaire a pris par surprise également les Palestiniens eux-mêmes, à Ramallah et à Gaza, et a bouleversé leurs plans.
Alexandre, vos journaux commentent également abondamment cette affaire et l'ont surnommée la Grande Évasion.
Oui, la Grande Évasion, en référence au film hollywoodien où des prisonniers alliés s'enfuient d'un camp de concentration nazi. car pour les journalistes arabes, il ne fait pas de doute que la fuite des prisonniers palestiniens relève d'un exploit qui commence déjà à entrer dans la légende. Et pour un monde arabe où les bonnes nouvelles sont rares, la grande évasion a permis de relever le moral, non seulement des Palestiniens, mais aussi de beaucoup d'Arabes, estime un commentateur. La grande évasion, c'est aussi l'occasion de se moquer des Israéliens tournés en ridicule. Et pour un éditorialiste, la grande évasion a en partie réussi grâce à la suffisance et au sentiment de supériorité des Israéliens. Certains analystes vont même jusqu'à penser que cette évasion pourrait changer le cours des événements et pourquoi pas provoquer une troisième intifada qui viendrait casser le carcan du fait accompli israélien.
On reste en Palestine, Alexandre, puisque vos journaux se penchent sur les aides arabes pour la reconstruction de Gaza.
Oui, une aide qui arrive en rang dispersé, notent les journaux. Les trois principaux donateurs, l'Égypte, le Qatar et le Koweït, ne se sont pas concertés pour coordonner leurs travaux. Alors l'Égypte, qui avait été pionnière avec de l'aide humanitaire et du matériel pour déblayer les bâtiments détruits, s'est accordée un moment pour souffler, l'occasion pour le Qatar de foncer dans la brèche et annoncer que les travaux de reconstruction qui finançaient allaient commencer dans une semaine. De quoi piquer au vif les Égyptiens qui ont répliqué que eux aussi allaient bientôt commencer les grands travaux de reconstruction. Vu du côté palestinien, cette concurrence est la bienvenue, pense un commentateur. Pourvu que ça dure et que les centaines de millions de dollars promis par les uns et par les autres ne soient pas virtuels, mais se traduisent dans la réalité par des constructions, conclut le journaliste.
Michel Paul, d'autres thèmes dans la presse qui retiennent tout particulièrement l'attention des Israéliens ces derniers jours.
Le virus qui ne quitte pas les Israéliens, 5 jours de classe et près de 150 000 élèves en quarantaine. Les journaux citent les tendances encourageantes, mais la situation reste toujours inquiétante. Nouveau phénomène, les Israéliens se précipitent sur les centres de dépistage pour pouvoir passer les fêtes et les vacances en famille, et cela provoque des embouteillages monstres. On trouve aussi des articles sur la guerre du Kippour en 1973, comment Henry Kissinger a réussi à obtenir un cessez-le-feu avec une série de manipulations, c'est dans Yediot Aharonot. Et Eric, une histoire rocambolesque, un habitant de la ville portuaire de Haïfa enlève une employée de banque, il la force à réaliser un hold-up dans son propre établissement, muni d'une fausse ceinture d'explosifs. Tout ce petit monde est maintenant derrière les barreaux, en attendant de comprendre ce qui s'est réellement passé.
Et votre image de la semaine, Michel ?
Eh bien, ce sont les images des événements du 11 septembre, il y a tout juste 20 ans, les attentats vus par la lorgnette israélienne. Depuis, fait remarquer un éditorialiste, les Américains ont sombré dans la paranoïa.
Merci Michel et merci Alexandre. Cette émission Orient Hebdo, réalisée par Mathias Golshani, est dédiée à notre ami et confrère Amobe Mevege, décédé en début de semaine d'une maladie foudroyante. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous parlerons liberté d'expression avec le caricaturiste iranien Kiarnoush Ramzani, réfugié en France depuis 2009. À demain donc, tout de suite, le journal en français facile. Lundi sur